بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هو الإخلاص في دين الله عز وجل. الأصل الأول الإخلاص في دين الله عز وجل وتوحيده، حيث يعبد العبد ربه ولا يقصد بعبادته وأعماله إلا وجه الله تبارك وتعالى. فتبين لنا معنى الإخلاص، وتبين لنا معنى التوحيد، وتبين لنا معنى الشرك بالله جل وعلا. ثم تكلمنا حول الأصل الثاني، وهو أمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع في الدين، ونهيه عن الاختلاف في الدين والتفرق فيه. وقرأنا بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بهذا الأصل العظيم، ثم انتقلنا إلى الأصل الثالث، وهو أن من تمام الاجتماع في الدين السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. Donc nous avions parlé lors d'assises précédentes de trois fondements parmi les six fondements importants de la religion. Fondements sur lesquels la religion est construite. Si un de ces fondements vient à manquer, soit la religion s'annule entièrement, ou soit elle s'annule en partie. Nous avions vu et mentionné le premier, de ces six fondements. C'est la sincérité. La sincérité dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et le monothéisme, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. De sorte que le serviteur n'adore qu'Allah et qu'il ne vise à travers ses actes d'adoration que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, nous avions vu clairement ce qu'est que le tawhid, nous avions vu ce qu'est le monothéisme, la sincérité dans la religion d'Allah, et nous avions vu son contraire qui est le polythéisme et l'associationnisme à shirk, billahi jalla wa ala. Puis nous avions parlé du deuxième fondement qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'être uni dans la religion. Et il a interdit de diverger et de se séparer en sectes dans la religion. Nous avions vu quelques versets, quelques récits du prophète alayhi salatu wassalam qui concernent ce sujet. Ensuite, nous sommes passés au troisième fondement. Le troisième fondement et le dernier que nous avons vu, c'est que qu'est-ce qui parfait l'union des musulmans. Ce qui parfait l'union des musulmans, c'est d'écouter et d'obéir à celui qui détient l'autorité parmi les musulmans, même si celui-ci est un esclave abyssin. Donc nous avions vu que ce terme esclave abyssin était mentionné par le prophète alayhi as-salatu wassalam. وهذا الأصل كما سمعتم له تعلق بالأصل السابق. Donc le troisième fondement que nous avons vu, qui est d'écouter et d'obéir à ceux qui détiennent l'autorité parmi les musulmans, ce deuxième fondement est lié au deuxième. Allah nous a ordonné d'être unis, et troisièmement, d'écouter et d'obéir à ceux qui détiennent l'autorité.
يفيد أن الاجتماع لا يقوم إلا على أركان وأن السمع والطاعة ركن من أركان هذا الاجتماع.
Ici on voit que l'union ne peut être établie que lorsqu'elle est construite sur ses piliers. Et on voit aussi que d'écouter et d'obéir à ceux qui détiennent l'autorité, ceci fait partie des piliers de l'union.
وأركان هذا الاجتماع أولا الاجتماع على الدين على دين الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
Donc le premier de ces fondements, les fondements de l'union des musulmans, c'est tout d'abord que l'on doit être unis autour de l'islam. On doit être tous unis autour de la religion islamique. Et l'islam, c'est se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala avec le monothéisme en ne lui donnant aucun associé, se soumettre à lui en lui obéissant et désavouer l'associationnisme et les associateurs. هذا تعريف الإسلام.
ثانيا أن يفهم هذا الإسلام أن يفهم هذا الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من نصوص الوحيين Al-Kitabi wa Sunnah.
Le deuxième pilier de l'union des musulmans, c'est que l'on doit comprendre cet islam. On doit comprendre cet islam comme les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont compris cet islam en tirant cette compréhension des deux révélations, le livre d'Allah et la Sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Donc l'islam doit être compris selon la compréhension des compagnons du prophète alayhi as-salatu wassalam.
Thalithan anna ahla hadha ad-din la budda lahum min makanin fil ard yuqimuna fihi sha'a'ira hadha ad-din wa yantaqiluna wa yantaliquna fihi ila ad-da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala.
Troisième pilier de l'union des musulmans. Il faut que les musulmans aient un endroit dans lequel ils vont mettre en application les rites islamiques. Donc il faut que les musulmans aient un endroit dans lequel ils vont mettre en application les rites islamiques et duquel ils vont s'en aller faire l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Rabi'an wujudu imamin yaqumu ala hadha at-tajammu' yar'a wa yahkumu fihi bil 'adl wa yazubu 'an hadha al-ijtima'i ويسير مصالح الدين, مصالح الدين والدنيا. Quatrièmement, il faut qu'il y ait un dirigeant. Il faut qu'il y ait un dirigeant qui va être occupé, qui va s'occuper d'unir les musulmans, de juger avec la justice et de défendre cette union. Et aussi de faciliter et de mettre tout en œuvre dans ce qui est dans l'intérêt des musulmans au niveau religieux et au niveau de la vie mondaine, de la vie d'ici-bas. خامسا واخيرا السمع والطاعه لهذا الامام. Et le cinquième pilier sur lequel est basée l'union des musulmans, c'est d'écouter et d'obéir à ce dirigeant, celui qui détient l'autorité. فهذه الامور الخمسه اذا وجدت كان الاجتماع صحيحا سليما مباركا مؤيدا من الله سبحانه وتعالى. Donc lorsque ces cinq piliers qu'on vient de mentionner, lorsque ces cinq piliers sont assemblés, alors l'union sera correcte, elle sera saine et elle sera aidée. Elle aura le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَنُعِيدُ هَذِهِ الْأَرْكَانِ الْخَمْسَةِ الْإِجْتِمَاعُ عَلَى الدِّينِ الْإِجْتِمَاعُ يَكُونُ عَلَى الدِّينِ وثانيا يفهم هذا الدين على أو كما فهمه الصحابة ثالثا أن أهل هذا الدين لابد لهم من مكان رابعا وجود إمام يقوم على هذا التجمع وخامسا السمع والطاعة لمن تأمر علينا. Donc nous récapitulons ces cinq piliers sur lesquels sont construites l'obéissance, sont construites à Afwan, l'union des musulmans. Premièrement, il faut être uni autour de la religion. Deuxièmement, il faut que cette religion soit comprise selon la compréhension des compagnons. Troisièmement, il faut que les gens de cette religion aient un endroit dans lequel ils vont mettre en application les rites islamiques. Quatrièmement, il faut qu'il y ait un dirigeant. Et cinquièmement, il faut écouter et obéir à celui qui détient l'autorité parmi nous. As-sam'u wa ta'atu lafzani shar'iyan ja'at fi ahadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ja'at kathira. Donc le terme écouter obéir, ces termes-là sont beaucoup mentionnés dans les récits du prophète alayhi as-salatu wassalam. Donc il y a plusieurs récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquels il ordonne d'écouter et d'obéir. As-sam'u huwa an yusghi al-muslimu ila al-awamir allati tuwajjahu ilayhi min wali al-amri hadha. Écouter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le musulman, donc il porte toute son attention aux ordres qui lui sont adressés et qui viennent de celui qui détient l'autorité. Donc premièrement, le musulman écoute les ordres qui lui sont adressés et qui viennent de la part de celui qui détient une autorité sur lui. وهذا السمع وحده لا يكفي. السمع وحده لا يكفي في الشريعة بل لا بد من اتباعه بالطاعة لأنها هي المقصود الأساس. Écouter simplement, ça ne suffit pas. Il faut que cette écoute soit suivie d'une obéissance. Après avoir écouté, il faut faire suivre cette écoute par une obéissance. Parce que c'est ceci qui est voulu. والنصوص المتعلقة بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا قد مضت في اللقاء السابق. في اللقاء السابق عفوا. Donc, le fait d'écouter et d'obéir à ceux qui détiennent l'autorité, les textes concernant ce sujet ont été mentionnés lors de l'assise précédente. Donc on ne va pas les répéter. وَالطَّاعَةُ هِيَ الْإِنْقِيَادُ وَالْمُتَابَعَةُ وَالتَّنْفِيذُ لِلْأَمْرِ وَالْإِنْتِهَاءُ عَنِ النَّهِي. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance? L'obéissance, c'est se soumettre, suivre et mettre en application l'ordre qu'on nous a donné et cesser de faire ce qu'on nous interdit.
وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حُدُودُهُمَا جَاءَتْ مُوَضَّحَةً فِي نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن السمع والطاعة في جميع الأمور في جميع الأمور فيما أحب المسلم وفيما كره ولم يستثني إلا سورة واحدة.
Donc, le fait d'écouter et d'obéir, ceci, ces deux choses-là, elles ont des limites, une délimitation qui a été mentionnée et qui a été éclaircie par le prophète alayhi salatu wa salam. L'écoute et l'obéissance à ceux qui détiennent l'autorité sur nous, ceci a été expliqué par le prophète alayhi salatu wa salam. Et il a mentionné qu'on doit écouter et obéir aux dirigeants dans toutes choses. Dans toutes choses, dans ce que le musulman aime et dans ce qu'il n'aime pas. Et le prophète alayhi salatu wa salam n'a mis à part qu'une seule forme.
ولم يستثني إلا سورة واحدة وهي سورة الأمر بالمعصية فإذا أمر المسلم بمعصية كأن يقتل أو كأن يقتل مسلما أو يؤمر بالربا الصريح أو نحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يتابع وأن يطيع لأن الطاعة إنما هي في حدود ما شرعه الله جل وعلا من الأوامر والنواهي والمباحات وأما المحرم فلا يسمع ولا يطاع فيه.
Écouter et obéir. On doit écouter dans toutes choses ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas aussi. Une chose dans laquelle on n'écoute pas et on n'obéit pas, c'est lorsque l'on nous ordonne de faire quelque chose d'illicite. De faire quelque chose d'illicite. Si on t'ordonne de tuer un musulman, ou si on t'ordonne de tuer une personne qu'on n'a pas le droit de tuer, si on t'ordonne de pratiquer l'usure, ou d'autres choses similaires, alors dans ce cas-là, on n'écoute pas et on n'obéit pas. Parce qu'on doit écouter et obéir dans les choses qui ont été délimitées par la législation, délimitées par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on nous ordonne de faire quelque chose d'illicite, alors on n'écoute pas et on n'obéit pas.
وليس معنى هذا أنه إذا أمر المسلم بفعل محرم كشرب الخمر ونحوه أن يمتنع عن السمع والطاعة مطلقا. لا. هذا ليس بمراد. وإنما المراد الامتناع عن السمع والطاعة في الأمر الخاص المحرم ويبقى ما عداه على الأصل وهو الوجوب وجوب الالتزام بطاعة الإمام.
Donc maintenant, on a vu que lorsqu'on nous ordonne de faire quelque chose d'illicite, on écoute. On nous ordonne de boire du vin, on écoute. Là, on nous ordonne de pratiquer l'usure, on n'écoute pas. Mais est-ce que ça veut dire que on sort complètement de l'autorité de ce dirigeant-là? Donc ce n'est pas ça ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'écoute pas et on n'obéit pas dans cette chose-là qui est illicite. On n'écoute pas et on n'obéit pas dans cette chose-là qui est illicite. Mais on doit quand même écouter et obéir dans le reste. Dans le reste.
فهذا هو الأصل الثالث بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الأصل بيانا شائعا أي منتشرا كافيا يكفيك عن غيره بوجوه من أنواع البيان شرعا جاء بيان هذا الأصل في الشريعة في الكتاب والسنة موضحة وقدرا.
Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué ce fondement-là, qui est d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Et il l'a expliqué clairement, de sorte qu'on n'a pas besoin d'une autre explication. Ceci a été expliqué dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم آية محكمة obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux qui détiennent l'autorité. Verset clair. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous a donné beaucoup de paroles sur ce sujet. Et aussi, Allah nous a montré l'importance de ce fondement dans ce que l'on a vécu, dans ce qu'il a décrété et dans ce qui s'est passé. Amma al-janib al-qadari, fa inna al-shari al-hakim, Allah tabaraka wa ta'ala, alfata anzar al-muslimin ila al-waqi' alladhi yushahidu al-nas wa yudrikunahu li'annahu mahsus. Wal-waqi'u anna kulla tajammu'in yakhruju ala imaratihi عليها أنه تحل به من النكبات والمصائب ما ليس بخاف على الناس أجمعين. Donc ceci, ce fondement, l'importance de ce fondement-là, on le voit à travers ce qui s'est passé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a attiré notre attention. Il a attiré notre attention sur ce qui se passe, sur la réalité, sur les événements, si on peut dire. Les gens voient des choses. Donc il y a des choses que l'on voit, et ceci, c'est comme ce qu'on peut dire palpable. On le constate, et on le voit. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas eu un groupe de gens qui est sorti contre son dirigeant, si ce n'est qu'il aurait arrivé des calamités et des machins qu'il n'ait que des problèmes. Ça, c'est une chose. فبلدة قائمة فيها حاكم فسقط فسقط هذا الحاكم أو أسقط كانت هناك فوضى فسوف يموت مئات من النفوس وسوف تسفك دماء كثر وسوف تذهب أموال كثيرة وسوف تنتهك أعراض شريفة أكثر بكثير مما كان عليه الوضع السابق. وهذا لمن تأمل التاريخ وتأمل الواقع لا شك أنه سيراه سنة من سنن الله عز وجل الكونية. Donc là un exemple, donc sans mettre le projecteur sur un pays bien précis, donc chacun pense et il verra que cet exemple là c'est la réalité. Un pays qui était dans un bon état, il y avait un dirigeant, qu'il soit juste ou injuste, il y avait un dirigeant, ce dirigeant tombe, ou soit on le fait tomber, soit on ôte ce dirigeant, qu'est-ce qui se passe? Fawda. Le pays, comment devient ce pays? Ce pays devient un lieu de désordre. Des gens meurent par centaines. Du sang est versé, beaucoup de sang est versé. Des biens sont gaspillés, des honneurs sont bafoués. Et la situation est pire que ce qu'elle était lorsqu'il y avait ce dirigeant. Maintenant, chacun pense, moi il y a un pays qui me vient en tête tout de suite. Maintenant, chacun pense. Il y avait un hakim, on disait qu'il était valim, usqit al-hakim. Le hakim, on l'a fait tomber. Et après, dans le pays, qu'est-ce qui s'est passé? Al-fawda, désordre, guerre civile, meurtre, sang versé, gaspillage de biens. La situation, elle était mieux quand? Lorsque ce hakim valim, il était là. Maintenant, chacun voit. Donc là, c'était ce que je vous avais dit. On voit maintenant la sagesse dans le fait d'écouter et d'obéir aux dirigeants qui détiennent sur nous l'autorité, même si celui-ci est injuste. Et on avait vu la parole d'Ibn Abbas qui avait dit Ma takrahunahu fil jama'a khayrun mimma tuhibbunahu fil furqa. ce que vous détestez dans l'union, la parole d'Ibn Abbas, ce que vous détestez dans l'union, c'est meilleur que ce que vous aimez dans la division. Ça veut dire que ce que l'on subit sous un dirigeant injuste, c'est meilleur que ce que l'on risque de subir s'il n'y a pas de dirigeant et si les musulmans sont divisés. هذا ما يتعلق بالأصل الثالث. فننتقل إلى الأصل الرابع. والأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. Maintenant le quatrième fondement, les fondements de la religion, la science et les savants. Et le fiqh, al-fiqh akhassu min al-ilm, wa huwa idraku shay' huwa afwan, ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyya bi adillatiha al-tafsiliyya. Ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyya bi adillatiha al-tafsiliyya. Connaître qu'est-ce que la science et qui sont les savants, et le fiqh, connaître c'est quoi le wajib wa al-muharram wa al-mubah wa al-makruh, c'est quoi l'obligation, l'interdiction, ça c'est al-fiqh avec la preuve. Et qui sont les gens qui ont cette science là? Ce fondement traite de ce sujet là. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبع بهم وليس منهم. Et dans ce fondement-là, on va voir la démonstration de ceux qui ressemblent aux savants, mais qui ne sont pas en réalité des savants. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء المراد بالعلم هنا العلم الشرعي. وهو علم ما أنزل الله على رسوله بالبينات والهدى والعلم الذي فيه المدح والثناء هو علم الشرع علم ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Concernant ce fondement-là, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, ce qui est voulu à travers la science, c'est la science de la législation. Ce qui a été révélé de la part d'Allah à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme preuve claire et source de guidée. La science dont on fait l'éloge, dont on vante celui qui la possède, c'est la science de la législation. La science de ce que Allah a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son livre et sa sunna, sa tradition. Allah dit ce qui signifie « Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux ?» Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux ? La réponse est évidente. Non, ils ne sont pas égaux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit aussi « Celui à qui ou celui pour qui Allah veut du bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui donne des voitures, des femmes, des enfants. » C'est ça ? Man yuridillahu bihi khayra yarzuqhu al-awlada wa yuzawwijuhu wa yarzuqhu al-buyut al-muzakhrafa. Là, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne beaucoup de maisons, beaucoup de femmes, d'enfants. C'est ça, alamat iradat al-khayr. C'est pas ça. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Il va faire qu'il sera instruit dans la religion. Il connaîtra sa religion. Wa yaqulu al-ulama mafhum al-hadith anna man la yata'allam wa la yatafaqqa fa ma arada Allah bihi khayra. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et les savants disent que ce qu'on comprend de ce texte-là, celui qui n'apprend pas, qui ne s'instruit pas dans sa religion, ça veut dire qu'Allah il n'a pas voulu son bien. Donc la personne qui n'apprend pas et qui ne s'instruit pas, ça veut dire qu'Allah il n'a pas voulu son bien. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, a aussi dit, les prophètes ne laissent ni dinar en héritage, ni dirham. Ils ne laissent pas d'argent en héritage. La seule chose qu'ils laissent, c'est quoi? C'est la science. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, je vous ai laissé deux choses, vous ne vous égarerez pas tant que vous les suivrez, le livre d'Allah et ma tradition.
ومن المعلوم ان الذي ورثه الانبياء انما هو علم الشريعه.
Ce qui est connu, c'est ce que les prophètes, c'est ce que les prophètes ont laissé, c'est la science de la religion.
ومع هذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ومع هذا فنحن لا ننكر ان يكون للعلوم الاخرى فائده ولكنها فائده ذات حدين.
Donc le cheikh il dit ensuite, ça ne veut pas dire que l'on ne reconnaît pas pour les autres sciences leurs bienfaits. Ça ne veut pas dire que on dit que les autres savoirs n'ont pas de bienfaits. Tout ce qui est autre que la science de la législation, ça ne sert à rien. On ne dit pas ça. Mais leur utilité est à double tranchant. Leur utilité est, si on peut dire, à double tranchant.
إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وانتفع بها عباد الله كانت خيرا ومصلحة.
Si cette science, ce savoir, qui n'est pas un savoir religieux, si il aide à obéir à Allah, et aussi s'il soutient la religion d'Allah, et si les serviteurs d'Allah en tirent un quelconque profit, alors ceci est un bien et c'est dans l'intérêt des musulmans.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية.
Il y a certains savants qui ont dit que la science des métiers, si on peut dire, c'est une obligation communautaire. Il faut qu'il y ait une partie de la communauté qui acquiert ces sciences. Il faut des médecins parmi la communauté musulmane. Il faut des architectes. Il faut des physiciens. Il faut et il faut des gens qui sont connaisseurs de ces sciences utiles.
وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالْعِلْمُ الَّذِي وَرَدَ ثَنَاءُ فِيهِ وَعَلَى طَالِبِهِ وَفِقُ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَامُ.
Dans tous les cas, donc la science sur laquelle on fait l'éloge, c'est la science de la législation, du livre, la science, la compréhension du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi as-salatu wa salam.
وَمَا عَدَى ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ وَسِيلَةً إِلَى خَيْرٍ فَهُوَ خَيْرٍ وَإِنْ كَانَ وَسِيلَةً إِلَى شَرٍ فَهُوَ شَرٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَسِيلَةً لِهَذَا وَهَذَا فَهُوَ ضَيَاعُ وَقْتٍ وَلَغْوٍ.
Maintenant la science. Si c'est un moyen qui conduit à un bien, donc le savoir qui est autre que le savoir religieux. Si c'est quelque chose qui conduit à un bien, alors c'est un bien. Si ça conduit à un mal, alors c'est un mal. Et si ça ne conduit ni à un bien, ni à un mal, alors c'est une perte de temps.
وَالْعِلْمُ لَهُ فَضَائِلُ كَثِيرًا مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ أَهْلَ الْعِلْمِ فِي الْآخِرَةِ وَفِي الدُّنْيَا أما في الآخرة فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بما علموا.
Parmi les mérites du savoir, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève en degré les gens doués de science dans l'au-delà et ici-bas. Il les élève dans l'au-delà et ici-bas. Et cela en fonction de ce qu'ils ont fait en fonction de leur appel vers Allah et en fonction de leur mise en pratique de leur savoir.
في الدنيا يرفعهم الله بين عباده بحسب ما قاموا به قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala élève en degré les gens doués de science par rapport à ce qu'ils ont fait, et il a dit ce qui signifie, Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui détiennent le savoir en degré.
وَمِنْ فَضَائِلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ إِرْثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
Un des mérites de la science, c'est que c'est l'héritage du prophète. C'est ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a laissé en héritage. Tout comme il a dit, ce qui signifie, les prophètes ne laissent en héritage ni dinar, ni dirham, mais ils laissent la science. Celui qui l'a saisi, alors a saisi une grande part.
وَمِنْ فَضَائِلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مِمَّا يَبْقَى لِلْإِنسَانِ بَعْدَ مَمَاتِهِ
ما يبقى للإنسان بعد مماته.
ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
Parmi les mérites du savoir, c'est que le savoir, la science, c'est ce qu'il reste après la mort. C'est ce qu'il reste à la personne après sa mort. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un récit rapporté par Muslim, d'après Abi Huraira, lorsque le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres cessent.
Lorsque le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres cessent.
Lorsqu'on est mort, est-ce qu'on peut faire salat?
Terminé.
Est-ce que l'on peut faire al-hajj?
Fini.
On peut jeûner?
Terminé.
Lorsque le fils d'Adam meurt, inqata'a 'amalu illa min thalath.
Il n'y a que trois choses qui restent.
Une aumône qui perdure. Par exemple, quelqu'un a planté un arbre fruitier ou un arbre duquel on va tirer des profits. Ou quelqu'un qui a construit une mosquée.
Sadaqatin jariya,
ou ilmin yuntafa'u bih, une science profitable. On enseigne à quelqu'un quelque chose, lorsque l'on meurt, on a la récompense lorsque cette personne met en pratique cette chose qu'on lui a enseignée.
Et waladin salihin yad'u lah,
un enfant pieux qui invoque. L'enfant pieux fait partie des œuvres de cette personne. Il a éduqué cet enfant qui invoque pour lui.
ومن فضائل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرغب أحدا أن يربط أحدا على شيء من النعم إلا على نعمتين هما طلب العلم والعمل به والغني الذي جعل ماله خدمة للإسلام.
Le prophète عليه الصلاة والسلام, il n'a jamais incité à envier une personne. Il n'a jamais encouragé à envier une personne. Si ce n'est que dans deux cas. On n'envie que deux personnes. On envie une personne qui a de la science et qui la met en pratique. Quelqu'un qui a de la science et qui la met en pratique, on l'envie, c'est-à-dire on a envie d'être comme lui. La deuxième personne, celui qui est riche et qui dépense ses biens au profit de l'islam.
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
Donc dans un récit rapporté par Al-Bukhari d'après عبد الله بن مسعود, celui-ci a dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: on n'envie personne, sauf deux personnes, si l'on peut dire. On a envie de ressembler à deux personnes. Une personne à qui Allah a donné des biens et qui dépense ses biens dans la vérité. La deuxième personne, quelqu'un à qui Allah a donné un savoir, une sagesse, une science, et il juge avec ce savoir et il l'enseigne.
ومن فضائل العلم أن العلم نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه وكيف يعامل غيره فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة.
Parmi les mérites du savoir aussi, c'est que c'est une lumière avec laquelle le serviteur s'éclaire.
C'est une lumière avec laquelle le serviteur s'éclaire. Il sait comment adorer son Seigneur. Et il sait comment il doit agir avec les autres. Il sait comment elle doit être sa relation avec autrui. Ainsi, il marchera dans cette vie avec clairvoyance et science. وَمِنْ فَضَائِلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْعَالِمَ نُورٌ يَهْتَدِي بِهِ النَّاسُ فِي أُمُورِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. Parmi les mérites de la science, c'est que le savant, c'est une lumière comme l'étoile. C'est une lumière avec laquelle on va se guider, avec laquelle les gens se guident.
وَلَا يَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَسَأَلَ رَجُلًا عَابِدًا هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ كَأَنَّ الْعَابِدَ إِسْتَعْظَمَ الْأَمْرَ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ السَّائِلُ فَأَتَمَّ بِهِ الْمِئَةَ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى عَالِمٍ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ لَهُ تَوْبَةً وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ثم دله على بلد أهله صالحون ليخرج إليه فخرج فأتاه الموت في أثناء الطريق والقصة مشهورة معروفة فانظر الفرق بين العالم والجاهل.
Tout le monde connaît l'histoire. L'histoire d'un homme qui a tué 99 personnes. Un homme a tué 99 personnes. Il est parti voir un adorateur. Un adorateur qui n'a pas de science. Qu'il n'est pas un savant. Il est parti voir cet adorateur, il a tué 99 personnes, et il lui demande, est-ce que je peux me repentir? Cet adorateur qui n'a pas de savoir, il lui dit, non. Alors l'homme le tua et compléta ainsi 100, le nombre de 100 tués. Il alla voir ensuite un savant. Il l'informa de son affaire, donc il a tué 100 personnes, et il lui dit, ce savant, après que ce tueur lui ait demandé est-ce qu'il peut se repentir, ce savant lui dit, oui, il n'y a rien qui se met entre toi et le repentir, va à tel endroit où les gens sont pieux, va à cet endroit-là et sois avec eux. Donc l'histoire est connue. Donc là, on voit la différence entre le savant et l'ignorant.
إذا تبين ذلك فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم.
Donc ainsi nous devons savoir qui sont les savants en réalité. Et les savants, ce sont ceux qui éduquent les gens, donc avec science, et qui les éduquent selon la législation islamique de leur Seigneur. Et on doit savoir cela afin de faire la distinction entre les savants, les vrais savants, et ceux qui leur ressemblent mais qui ne sont pas en réalité des savants.
يتشبه بهم في المظهر أي الشكل الخارجي والمنظر ما ينظر إليه فيعجب به والمقالي والفعال.
Donc ces personnes-là, ils ne sont pas des savants. Ils leur ressemblent dans l'apparence. Ils leur ressemblent dans l'apparence, dans le discours un peu.
لكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق.
Mais en réalité, il ne fait pas partie des savants dans son conseil qu'il donne aux créatures et dans son désir de la vérité.
فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويسوغه بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده أو لم يجده شيئا.
Cette personne-là qui n'est pas un savant en réalité, ce qu'il a, c'est qu'il change le faux en vrai. Il change le faux en vrai en embellissant sa parole, en enjolivant sa parole. Ainsi, celui qui est assoiffé, donc là c'est une image, celui qui est assoiffé, il vient vers ce savant, il a soif, il vient vers lui, mais lorsqu'il arrive à cet endroit-là, en réalité, il ne trouve pas d'eau. Il ne trouve اعتقدوا، بل هو البدع والضلالات الذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه، وان ما سواه لا يتفوه به الا زنديق او مجنون.
Donc lorsqu'il vient à ce savant qui a de belles paroles, qui a enjolivé ses paroles, il vient à lui assoiffé, et en réalité il ne trouve que l'innovation, l'égarement.
هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وكأنه يشير إلى أئمة أهل البدع والمضلين الذين يلمزون أهل السنة بما هم بريئون منه ليصدوا الناس عن الأخذ منه
عن الأخذ منهم. Donc là c'est comme la description de faux savants qui détournent les gens de la vérité, qui détournent les gens de la vérité.
وهذا الأصل بينه الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة من قوله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
Ce fondement là a été expliqué par Allah سبحانه وتعالى. On le voit dans سورة البقرة.
من تأملها وجدها دالة بصراحة عبارتها ووضوح لفظها على علامات وأمارات علماء السوء.
Celui qui médite sur cette sourate, sourate al-Baqara, le passage que je viens de citer, qui signifie, donc lorsque Allah s'adresse aux fils d'Israël et qu'il leur ordonne de tenir leurs engagements, celui qui médite sur ces passages de sourate al-Baqara, il verra les signes et la description des savants du mal. Celui qui médite sur, ces passages.
أمارات علماء السوء أهل الباطل وهي في شأن بني إسرائيل، ولكن قد علمت القاعدة عند المتقدمين من الصحابة والتابعين أن من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود كما قال الثوري وغيره.
Ces versets-là de sourate al-Baqara, ils parlent des fils d'Israël, des fils d'Israël. Mais il y a une règle chez les prédécesseurs, les anciens parmi les compagnons et leurs successeurs, c'est que celui qui s'égare parmi la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam, les savants qui s'égarent dans la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam, alors ils auront un caractère similaire, une ressemblance avec les savants de Bani Israël, des fils d'Israël.
ومن علامات علماء السوء توظيف كتاب الله عز وجل في جناية الأموال واكتسابها بالباطل هو مما وصف الله عز وجل به اليهود فشابههم من يبني على قبور الصالحين بنايات ويدعو الناس إلى النذر لها وصرف الأموال عليها ثم يأكلونها في بطونهم سحتاء.
Donc on voit, ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux savants de Bani Israël de changer, d'échanger les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala à vil prix, de se servir de la religion d'Allah pour se faire de l'argent. Donc Allah il leur a interdit ceci. Et on voit que dans la communauté musulmane, il y a des gens qui utilisent le livre d'Allah afin de gagner de l'argent dans le faux. Par exemple, il y a des gens qui construisent des édifices sur les tombes et ils appellent les gens à aller à ces tombes, à faire des invocations, à faire des vœux et à donner de l'argent dans ce mausolée, pour ceux qui gardent ce mausolée. Et ainsi, il se fait de l'argent bismiddin, au nom de la religion. Donc celui-là, il aura une ressemblance avec les savants de Bani Israël.
وكذلك علماء السوء وظيفتهم لبس الحق بالباطل فليس لديهم حجة سوى تغرير متبوعيهم فالباطل يلبسونها لبوس الحق بما عندهم من فصاحة ومن بيان والحق يلبسونه لباس الباطل حتى يصدوا متبوعيهم عن الاستجابة له والقبول له.
Les savants du mal, ils changent le faux en vrai.
وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ.
Donc Allah interdit aux savants des fils d'Israël de changer le faux en vrai.
Donc parmi la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, il y a des gens qui font ça, des gens que l'on prend pour des savants, qui changent le faux en vrai, et ceci avec l'éloquence dans la parole, avec de belles paroles et un beau style. Ils transforment le faux en vrai et le vrai en faux dans le but de détourner ceux qui les suivent de la réalité. Dans le but de les détourner de la réalité.
وكذلك علماء أصول ليس فيهم خشية لله سبحانه وتعالى وليس عنده من قياد للعلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم.
Parmi leurs autres caractéristiques, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. Allez-vous ordonner aux gens de faire le bien alors que vous oubliez vous-même? Ça, c'est une autre caractéristique que les savants du mal ont, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala.
وكذلك علماء السوء دأبهم وهمهم المجادلة المجادلة بالباطل كما جدلت بنو إسرائيل موسى في آيات كثيرة في قصة البقرة وقصة قتل أنفسهم عندما اتخذوا العجلة فعبدوه كانت تلك عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم فهم أهل جدال وأهل شقاق.
Une autre caractéristique du savant, des savants du mal. Une autre caractéristique des savants du mal, c'est que ce sont des gens de la polémique, qui aiment polémiquer, discuter, tout comme Benou Israël aimait discuter et polémiquer avec Moussa.
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي.
Lorsque Moussa alayhi salatu wa salam a informé les enfants d'Israël, Allah vous ordonne de sacrifier une vache. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de prendre la première vache qui vient et de la sacrifier. Et ils ont polémiqué. Est-ce que tu te moques de nous? Dis-nous quel genre de vache elle est. Dis-nous de quelle couleur elle est. Et dis-nous.
Donc les savants du mal aussi, ils ont cette caractéristique qui est le fait d'aimer polémiquer, d'aimer faire al-jidal.
كذلك علماء السوء أهل تحريف. أهل التحريف.
أهل التحريف وأهل التبديل. كما قال تعالى عن اليهود في هذه الآيات وقولوا حطة. وقولوا حطة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
Parmi une autre caractéristique des savants du mal, c'est que ce sont des gens qui aiment déformer les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils aiment déformer les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala قال الله تبارك وتعالى وقولوا حطة. لما دخلوا بنو إسرائيل القرية المقدسة أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يقولوا حطة، أي أن يحط الله تبارك وتعالى خطايانا، أن يرفع عنا خطايانا، أن يغفر لنا ذنوبنا. أمرهم الله جل وعلا أن يستغفروا ربهم، فقالوا حنطة، حبة من شعير. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux fils d'Israël, lorsqu'ils allaient entrer dans la ville bénite, saine, de dire Hitta. Le sens, ça veut dire demander qu'Allah vous pardonne vos péchés. Hitta. Et entrer prosterné. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés sur les fesses et ils ont dit Hinta. Hinta. Zadun Noun. Ils ont rajouté une lettre, un Noun, et ils ont changé le sens. Au lieu de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont dit grain de farine de froment. Ou grain de farine. Qalu Hinta. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا فقالوا حنطة لهواني فأبوا فقالوا حنطة لهواني وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام للنكران نون اليهود ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان وكذلك الجهمي الجهمية فرقة منسوبة إلى من فرق الإسلام وكذلك الجهمي قيل له استوى جاء الاستواء استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه في أكثر من موضع في الكتاب في القرآن الكريم وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام للنكران الجهمية من معتقدهم أنهم ينكرون علو الله سبحانه وتعالى على عرشه يقولون الله سبحانه وتعالى ليس على العرش يقولون الله استولى على العرش زادوا اللام وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام للنكران يقولون استولى على العرش ذلك لشبهات عندهم يظنونها أدلة عقلية فهم ينكرون علو الله سبحانه وتعالى والاستواء في كلام العرب معروف المعنى كما سمعتم في درس أخينا مراد الاستواء معروف المعنى والعلو والاستقرار والصعود ورواه البخاري في صحيحه عن مجاهد قال على عرشه أما الكيف مجهول الكيف كيف استوى على العرش مجهول العقول لا تبلغ صفات الخالق سبحانه وتعالى الكيف مجهول الإيمان بالاستواء واجب نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نؤمن بأن الله جل وعلا على عرشه حقيقة ولا نكيف ولا نشبه استواءه باستواء المخلوقين الإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء عن الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة donc là maintenant on a vu les enfants d'Israël ils aiment détourner la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Il y a des savants qui sont attribués à la communauté islamique qui font la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux fils d'Israël, lorsqu'ils allaient entrer dans la ville sainte, Al-Quds, lorsqu'ils allaient rentrer, on leur a ordonné de dire « Hitta ». Ça veut dire qu'Allah nous pardonne. Mais eux, ils n'ont pas dit « Hitta ». Ils ont dit « Hinta ». Ils ont rajouté « Noun », une lettre. Et ça veut dire « farine, grain de farine. Il y a des musulmans, Allah dit Istawa ala al-Arsh, il s'est élevé au-dessus de son trône, Et Al-Jahmi, il dit non. Istawla ala al-arsh. Il a dominé le trône. Il n'est pas au-dessus de son trône. Ils disent Allah, il n'est pas au-dessus de son trône. Parce qu'il a des ambiguïtés. Et ils pensent que ces ambiguïtés, ce sont des preuves. Donc, eux, ils ont fait la même chose. Ils ont rajouté une lettre. Le terme istawa, il a été mentionné plusieurs fois dans le Coran et jamais il n'a été mentionné istawla. Dans le Coran, istawla ala al-arsh. Il n'y a pas un seul verset dans lequel Allah dit istawla ala al-arsh. Donc, ces savants parmi les musulmans ont une similitude avec ces savants parmi les fils d'Israël. C'est pour cela qu'Ibn al-Qayyim dit Nounou al-Yahoudi wa lamu al-Jahmiyi huma fi wahyi rabbi al-arsh za'idatan. La lettre Noun que les fils d'Israël ont rajouté et la lettre Lam, le L qu'ils ont rajouté, Al-Jahmiya, ces deux choses-là ont été ajoutées à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on sait qu'Allah est au-dessus de son trône. Comment? On n'imagine pas. On ne fait pas de ressemblance avec les créatures. Y croire est une obligation. Et on ne se pose pas la question du comment. Comme l'imam Malik a dit, et ça on l'a vu dans un cours avec notre frère Mourad, lorsque on a posé la question à l'imam Malik, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône, il s'est élevé au-dessus de son trône. Comment? L'imam Malik a dit, al-istiwa, ceci c'est connu en langue arabe. On sait ce que ça veut dire. L'imam al-Bukhari rapporte dans son sahih de Mujahid, ala arshihi, il s'est élevé au-dessus de son trône. Le sens des istawa, il est connu. Al-kayf majhoul. Le comment, il est inconnu. On ne peut pas s'imaginer. Le cerveau humain, il ne peut pas atteindre le degré qui est de penser aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu t'imagines, Allah, est différent. Wal-imanu bihi wajib. On doit croire en cela. Wa as-su'alu anhu bid'a. On ne doit pas se poser la question du comment. واخيرا كذلك علماء السوء وقعوا فيما وقع فيه اليهود اذن فهذه الايات واضحات في التحذير من علماء السوء وبيان صفاتهم حتى يحذرهم الناس ويبتعدوا عنهم. Donc ces versets de sourate al-Baqara, comme on a vu, ils montrent les caractéristiques des mauvais savants clairement pour celui qui médite sur ces versets de sourate al-Baqara. ونكتفي بهذا القدر وبارك الله فيكم وأحسن الله وأحسن الله إليكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وغدا إن شاء الله تعالى جلسة مع أخينا مراد وموضوع الدرس تفسير سورة الغاشية ويستفتح الدرس الشيخ علي إن شاء الله تعالى بقراءة رائعة وهو الأستاذ المدرس علم التلاوة والتجويد بمسجد السلام هذا المسجد. Donc demain إن شاء الله تعالى assise avec notre frère Mourad autour de l'exégèse de سورة الغاشية l'enveloppante qui sera précédée de la lecture de Cheikh Ali. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.